c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Comme chaque vendredi, on vous propose un essai qui a marqué l'histoire de la pensée économique. Aujourd'hui, les institutions, les changements institutionnels et l'efficacité économique de Douglas North, un essai paru en 1990 aux États-Unis. Et c'est Yannick Pérez qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé à Centrale Supélec et maître de conférences en sciences économiques à l'Université Paris Sud. Alors tout au long de sa carrière, Douglas North va chercher à répondre à cette question. Pourquoi certains pays réussissent-ils à s'enrichir et pourquoi d'autres n'y parviennent-ils pas? Pour cela, il va repenser le rôle joué par les institutions. Comment Douglas North définit-il les institutions? Pour commencer, Yannick Pérez.
Alors, Douglas North définit les institutions comme étant les règles du jeu. Alors ces règles du jeu sont soit formelles, soit informelles. Donc elles sont explicites, écrites dans des textes de loi, dans des codicilles, dans le code civil, dans la common law. Donc il y a des choses très explicites. Et aussi des institutions qui sont dites informelles et qui donc sont des coutumes, des règles du jeu ou des objets comme des croyances ou des religions, qui constitue donc le cœur des règles informelles.
Et alors l'originalité de Douglas North par rapport aux autres membres de la nouvelle économie institutionnelle qu'il va contribuer à créer, c'est peut-être qu'il distingue les règles du jeu et ceux qui jouent le jeu, c'est-à-dire les institutions et les organisations.
Oui, en fait, la meilleure analogie qu'on puisse faire, c'est avec le sport. Si on regarde un match de football, eh bien, on voit bien qu'il y a tout un ensemble de règles formelles et informelles. Dans les règles formelles, il faut essayer de gagner. Dans les règles informelles, il y a tout un ensemble de choses que l'on peut faire pour gagner, qui sont licites, que l'arbitre autorise. Et puis, il y a tout un ensemble de choses qui sont à la limite du licite, mais que l'arbitre parfois tolère, accepte ou n'accepte pas. Et quand il n'accepte pas, eh bien, il joue le rôle d'un tiers qui vient garantir que les règles du jeu soient respectées. Ensuite, les organisations sont les joueurs. Donc, ces joueurs peuvent investir, s'entraîner plus, s'entraîner moins, acheter des compétences, des nouveaux joueurs, ou militer pour un changement des règles du jeu et dire cette compétition serait plus attractive si on en venait à la fermer, de ne plus avoir que quelques clubs qui jouent et les meilleurs si possible. Ou au contraire, d'avoir des règles plus ouvertes en disant non, on pourrait avoir des représentants de chacun des pays, comme ça permettrait une plus grande ouverture.
Peut-être qu'on peut expliquer en quelques mots, Yannick Pérez, qui est Douglas North, sa vie, son parcours intellectuel. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est qu'il a d'abord été marxiste, assez proche des théories néoclassiques, et puis ensuite il va évoluer.
Alors, ce qui est intéressant quand on parle de North, c'est qu'on parle de quelqu'un qui a réfléchi grosso modo des années 50, quand il a commencé à devenir professeur, jusque, on va dire qu'il a arrêté une activité intellectuelle intense en 2010. Donc, ça fait une carrière qui s'étire sur 60 ans. L'origine de sa motivation, c'est effectivement dans les années 40 d'être influencé par le marxisme aux États-Unis et de dire je suis plutôt pour un partage des richesses, je suis plutôt pour une société plus équilibrée, plus juste. On est dans les années 40 aux États-Unis, ça peut faire sens. Et à ce moment-là, il est pacifique. Donc il se retrouve dans une situation bizarre en 41 quand l'Union soviétique rentre en guerre. Et du coup, il est le seul pacifiste. Alors il se dit, il faut que j'ajuste les croyances que j'ai par rapport à ce que je constate. Mais il reste pacifiste, donc il s'engage dans l'armée, mais pas dans l'armée militaire, dans la marine marchande.
En tant que photographe de guerre, ce qu'il voudra être plus tard, mais son père lui dira, ce n'est pas très sérieux, soit plutôt économiste.
Disons qu'il y a un vaste débat dans sa tête entre être photographe ou être économiste. Et donc, son papa a milité pour qu'il soit économiste, parce que c'est un petit peu plus sérieux. Tandis que North a toujours gardé tout au long de sa vie une inclinaison pour la photo. Même après son prix Nobel, il a continué à faire des photos et à les montrer à ses amis.
Prix Nobel qu'il obtiendra en 93. Mais il y a une étape importante dans son parcours sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, Yannick Pérez. Douglas North a été l'un des fondateurs de la cliométrie, du nom de la muse de l'histoire, Clio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette nouvelle approche et quel a été son apport ?
Alors, au début de sa carrière, North s'intéresse à l'histoire économique. Il reconnaît lui-même ne pas être un très très grand théoricien au sens de fabricant de théories économiques, mais ce qui l'intéresse, c'est de comprendre comment les économies évoluent, comment certaines sont riches, comment certaines sont pauvres, pourquoi certaines ont réussi cette transformation qu'il aimerait voir se répéter partout. Et une manière pour lui de comprendre ça, c'est de regarder l'histoire, de regarder les faits économiques et de se dire, bon, dans ces faits, beaucoup de théories s'affrontent pour savoir quel est le moteur qui a déclenché cette croissance économique. Et lui pense qu'une bonne manière de savoir quel est le vrai moteur ou quelle est la vraie cause de la croissance économique, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est le capital, est-ce que c'est le progrès technique ou est-ce que c'est la qualité des institutions ? Évidemment, il milite pour la qualité des institutions. Mais l'idée pour lui, c'est d'essayer de mesurer l'impact de chacun de ces phénomènes, si possible avec des chiffres, avec des données. Mmh. Il est influencé par ça, par Simon Kuznets, qui essaye de montrer l'histoire économique sur le long terme et d'essayer de savoir qui détermine quoi. Et dans la cliométrie, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser toutes les techniques de l'époque, les nouvelles techniques mathématiques, et de les appliquer à l'histoire pour essayer de savoir qu'est-ce qui détermine quoi. Et qu'est-ce qui détermine quoi dans la croissance économique des États-Unis d'abord, jusque dans les années 80, et ensuite, quand il voudra appliquer ces mêmes théories à l'Europe, il se rendra compte que, manque de chance, les institutions américaines ne sont pas les institutions européennes, et que donc il va falloir qu'il fasse une révolution copernicienne en se disant, manque de chance, la théorie néoclassique est très pratique quand les institutions sont de bonne qualité et qu'elles préservent effectivement le marché. Mais si on est dans d'autres environnements institutionnels, il va falloir rompre avec la théorie néoclassique. Dans la théorie néoclassique, on part du principe qu'il n'y a pas de problème. Donc, comme il n'y a pas de problème, c'est pas la peine d'étudier le problème qui n'existe pas. Par définition, on a décidé que l'agent était rationnel, on a décidé qu'il avait toutes les informations, que donc tout ce qui permet d'améliorer l'information ou d'améliorer la rationalité n'a pas vraiment besoin d'être étudié, puisqu'on a éliminé le problème ex ante en posant le fait que mathématiquement, c'était plus simple de ne pas les avoir.
Alors, ce que dit Nouglas North, c'est qu'il y a justement beaucoup d'incertitudes et que les institutions sont là pour réduire cette incertitude.
Absolument. Donc, dans un premier temps, North est très néoclassique et pense que les institutions sont là pour être efficaces, pour réduire l'incertitude et efficaces dans l'objectif qu'elles se sont assignées et que donc, du coup, les institutions sont efficaces et elles vont générer de l'efficacité économique. Ça marche assez bien si on se restreint aux États-Unis, puissance dominante de l'époque. Ça marche un peu moins bien si on fait la même étude en historique de l'Europe, où on se dit l'Espagne qui dominait le XIVe siècle a disparu de l'échiquier mondial. Ah mince, les institutions sont pas forcément synonymes d'efficacité. Elles ont été créées dans un but, mais ce but n'est pas forcément l'efficacité économique. Ça peut être le partage de rente, la conservation de rente. Ça peut être des choses qui sont en fait très inefficaces.
Et alors justement, quel est le rôle de l'État, Yannick Pérez, dans l'élaboration et la mise en œuvre des institutions, selon Nouglas North ?
Alors, il y a un rôle complexe qui est attribué à l'État parce que il est lui-même le fruit d'une production institutionnelle, d'un environnement institutionnel. Donc, il peut agir sur les règles, il peut agir sur les normes, il peut agir sur les institutions formelles, sur l'organisation de la société. Est-ce que je crée un Parlement ? Est-ce que ce Parlement a le droit de proposer des initiatives venant de lois des citoyens ? Est-ce que j'autorise ou j'interdis des formes de communication ou de proposition de textes de loi ? Ça, c'est dans l'univers des décisions politiques que le gouvernement peut prendre. Mais à côté de ça, il y a des institutions informelles sur lesquelles le gouvernement a assez peu d'action ou assez peu de marge de manœuvre. Ce que les gens croient, ce en quoi ils ont envie de faire des choses ou la manière dont ils évaluent les activités économiques, ça ressort d'un univers qui est différent de celui de l'action de l'État.
Et c'est pour ça que, selon North, il est si difficile de transposer un modèle économique ou politique d'un pays à un autre.
Voilà, parce qu'il faut que les institutions formelles s'adaptent aux institutions formelles. Et donc, du coup, si les gens n'ont pas confiance dans un régulateur, si vous créez un régulateur en disant c'est lui qui va gérer l'ensemble des règles économiques, mais que tout le monde dit oui, mais d'où vient ce régulateur ? Qui est-il ? Que fait-il ? Nous, on n'aime pas trop ça. On préfère quand c'est décidé de manière plus collégiale. Et là, c'est un seul homme qui prend la décision. Pourquoi cet homme prendrait la décision ?
Quel exemple est-ce qu'il mobilise, Yannick Pérez ?
Alors, dans son œuvre, North utilise successivement un grand nombre d'exemples, parce que ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de résoudre des problèmes concrets. Donc,
pour expliquer peut-être précisément cette difficulté d'une transposition d'un pays à un autre.
Alors, les difficultés de transposition ou le copier-coller institutionnel, North montre que, sur plusieurs exemples, que ce qui fonctionne dans un pays s'explique parce qu'il y a une dynamique à la fois interne et externe, un chemin de dépendance qui fait que dans un pays ça fonctionne et que dans un autre ça ne fonctionnera pas.
Mais dans quel pays par exemple ça fonctionne ?
Alors, de tête, je vous dirais bien que la première étude qu'il a faite concerne les foires au Moyen-Âge et l'ensemble de l'organisation concernant les poids, les mesures, la défense des règles, la garantie des transactions. Et de dire que en Europe, on a été capable de faire cette sécurisation des transactions sur la base des foires, qui ensuite ont essaimé et ont permis un certain développement économique, mais que ce modèle d'échange, de construction institutionnelle, quand on essaie de le transposer dans d'autres pays, en Afrique par exemple, ou en Amérique latine, ça fonctionne pas de la même manière parce que les gens ne croient pas aux mêmes dispositifs, aux mêmes garanties, et que même si on a l'impression que les règles du jeu sont les mêmes, les joueurs ne sont pas les mêmes, et que du coup, ça donne des résultats très différents, et souvent inefficaces.
Et c'est aussi comme cela qu'il explique l'origine de la révolution industrielle en Angleterre, en expliquant que c'est grâce au droit de propriété que l'économie a pu se développer. Et donc il y a ces situations où les institutions sont efficaces, et puis il y en a d'autres où les situations sont moins efficaces. Comment explique-t-il l'inefficacité de ces institutions, sachant qu'on a le sentiment, avec Douglas North, que les périodes d'inefficacité sont finalement plutôt la norme, et les périodes de croissance durable plutôt l'exception?
Tout à fait. Dans l'hypothèse northienne, on va dire, l'institution, elle est créée par des individus qui ont un objectif commun. Mais cet objectif peut être l'efficacité, parfait, ou l'inefficacité, et la protection, et l'organisation de demandes de protection qui sont adressées au gouvernement en disant « non, vous voyez, la concurrence, c'est pas très bien », ou « non, empêcher l'ouverture concurrentielle de tel ou tel secteur, on a besoin de protection ». Alors, de protection durable ou de choses qui sont très inefficaces dans le très long terme. Tout ce qui va concerner les innovations, le développement de nouvelles pratiques peut être interdit culturellement ou par décision légale dans un environnement institutionnel où l'État se laisserait influencer par des groupes de pression interne qui viseraient à limiter l'introduction de certains nombres d'innovations qui auraient pour conséquence de redistribuer des ressources d'une manière qui ne favorise pas les élites en place, pour le dire simplement.
Et alors, quel lien fait-il, Yannick Pérez, entre institution et idéologie? Et quel impact est-ce que cela a sur sa pensée?
Alors, dans l'évolution de la pensée de North, on part vraiment d'un modèle néoclassique auquel, vers le milieu des années 80, North renonce en disant que on a un problème d'information et on a un problème de rationalité. Et donc, si on veut comprendre le changement institutionnel, il faut postuler que les gens ne sont pas rationnels. Et donc, s'ils sont pas rationnels, ça veut dire qu'ils se forgent des schémas mentaux dans lesquels les idéologies, les croyances vont venir perturber le calcul économique classique dans lequel on dit que ça n'existe pas. Mais si ça existe, alors, pour l'économiste, ça devient plus compliqué parce que comment résoudre une équation dans laquelle on dit « oui, mais la pondération sur le premier facteur ou sur le deuxième facteur est influencé par le fait que ma religion est A ou B ou que je crois en l'efficacité de ce que je vais faire ou je n'y crois pas. Si j'y crois, alors je vais mettre en place un dispositif. Si j'y crois pas, je vais faire le même calcul mais pour atteindre un résultat qui est il vaut mieux ne pas faire. » Et donc chez North, il y a l'idée qu'une fois qu'on a compris que les institutions étaient importantes, il faut comprendre comment les institutions se construisent et les institutions se construisent par des individus qui ont des croyances partagées. Et donc, une fois qu'ils ont des croyances partagées, ils font un effort collectif pour essayer d'avoir une institution. Et cette institution joue ensuite un rôle d'efficacité ou d'inefficacité dans le système global.
North a décrit son parcours intellectuel comme, je cite, « un long voyage certainement imprévisible du marxisme aux sciences cognitives ». Quel est aujourd'hui son héritage, Yannick Pérez?
Alors, l'héritage de North est compliqué à mesurer parce qu'il s'étend dans plein de dimensions différentes. Effectivement, il y a un apport en économie, avec des sociétés savantes qui se réclament de la contribution faite par Douglas North en compagnie de Coase et de Williamson, ce qu'on appelle la nouvelle économie institutionnelle. Mais il y a aussi des apports en sciences de gestion, en stratégie, il y a aussi des apports en économie politique, en sciences politiques. Et il y a aussi des gens qui regardent maintenant l'économie des institutions comme étant un lieu, ou les institutions comme étant un lieu qui permet un brassage culturel entre les apports des sciences cognitives, de la philosophie, de la sociologie et de l'économie. Dans cet univers, c'est un peu compliqué pour un économiste de s'y retrouver, car on est très très loin des outils que l'on enseigne ou que l'on apprend traditionnellement. Et donc, il faut accepter de faire le même voyage que North, mais c'est généralement compliqué parce que ça lui a pris 50 ans, voire 60 ans, et que tout le monde n'a pas forcément 60 ans.
Un grand merci, Yannick Pérez, d'être venu dans nos studios aujourd'hui.